Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur cette jolie place d'Herbès que je suis ravie de retrouver. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé là. Moi, je suis très heureuse là d'être ici parce que c'est toujours une belle émotion de découvrir de nouvelles plumes, de nouveaux romans, de nouveaux romanciers. Je vous remercie d'accueillir chaleureusement Célestin Demeus et Estelle Rocchitelli. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Une programmation de festival, c'est un mélange de fidélité à des auteurs que l'on suit. Vous avez vos chouchous, vous avez vos préférés que vous suivez de livre en livre. Et puis, c'est aussi, évidemment, des lieux de découverte. Donc, c'est toujours très excitant quand on tombe sur de très beaux premiers romans, comme ça va être le cas des deux dont on va te parler aujourd'hui, de se dire qu'ils sont la promesse de belles lectures à venir, sans doute. En tout cas, on espère qu'ils vont se remettre au travail, qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Et ça, c'est vraiment un renouvellement perpétuel. Ça tourne, ça se transmet, ça se renouvelle. Donc, on est très heureux de vous découvrir tous les deux. Donc, vous connaissez le principe, on va présenter nos invités, échanger un peu sur scène. Et bien sûr, si vous avez des questions qui viennent au cours de la rencontre, gardez-les. On vous donnera un micro pour pouvoir discuter, échanger avec nos invités. Deux premiers romans, donc. Je vais commencer par vous présenter. Estelle Rocchitelli, vous êtes née en 1994. Je crois que je vais pouvoir me passer de lunettes, mais pas du tout. Vous avez grandi près de Poitiers. Vous avez passé une enfance nourrie de musique que vous avez pratiquée assidûment et de lecture frénétique. Vous avez suivi des études de cinéma. Vous avez ensuite vécu, je crois, quelques années en Bretagne. Ça va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Avant de vous installer au Havre, d'où vous êtes arrivée hier soir, pour étudier au sein du master de création littéraire. Vous vivez toujours en Normandie et vous travaillez, si mes informations sont bonnes, dans une épicerie bio. C'est toujours le cas ?
Oui, ça s'est terminé il n'y a pas longtemps, mais c'était toute l'année dernière. Ouais.
Toute l'année dernière, donc ma fiche est à jour jusqu'à août 2024.
C'est ça.
Mais ce n'est plus le cas, très bien. Et donc depuis septembre 2024,
la rentrée littéraire ça prend du temps et du coup je profite de ces moments-là aussi.
Donc vous en êtes disponible pour accompagner votre livre là, en cette rentrée. Tant mieux pour nous. C'est D'après la brume qu'on va parler aujourd'hui, qui est paru il y a quelques semaines donc aux éditions d'Alva. On dira peut-être un petit mot, mais peut-être tout de suite même sur ces éditions qui sont un peu particulières puisqu'elles ont un catalogue qui est exclusivement féminin, qui n'accueille que des autrices.
Oui, c'est ça. Ça fait donc Juliette est parmi nous et ça fait quelques années qu'elles ont créé l'émission, la maison d'édition avec Marianne Lacoma. Et en effet, oui, elles ont fait ce choix assez politique de ne publier que des autrices sur des thèmes sociologiques ou en lien avec la nature.
Et le féminisme et des voix de femmes.
Oui, voilà.
Donc Célestin, vous n'auriez pas pu y être.
En effet.
Ça, c'était une belle conclusion, non ? Vous venez, vous, de Bruxelles, vous avez 33 ans, vous avez publié de nombreux ouvrages de poésie. Depuis une dizaine d'années déjà. Parmi eux, Écartype, au Tétralyre, qui avait eu le prix Émile Polak de l'Académie royale de Belgique. Quand même, ça en impose un peu. Ça, c'était en 2018. Et puis Cadastre, chez Chêne, en 2018, prix de la vocation. Et plus récemment, en 2021, Cavale russe. Ça, c'est pour votre parcours, travail de poète. Vous êtes aussi cofondateur et animateur des éditions de L'Angle mort. Et vous avez dirigé une revue de poésie et d'art graphique. On peut se permettre de 2015 à 2020, qui, je crois, vous valait notamment de valoriser le travail poétique dans les bistrots, avec des lectures à voix haute, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. Chaque parution de la revue était accompagnée par une présentation publique de la revue, et pendant laquelle on invitait, pas tous, mais certains auteurs qui avaient publié dans ce numéro-là, et on faisait des lectures publiques, et souvent, ça se passait dans un bistrot, en tout cas, oui.
Je crois que c'est aussi dans les bistrots que vous aimez écrire de la poésie. C'est en tout cas un lieu un peu central dans votre vie. C'est pas parce que vous êtes poétique.
Écrire ou l'écouter, en tout cas.
C'est assez fascinant pour moi, toujours, cette aventure du premier roman. Je me demande toujours comment ces auteurs, ces autrices, ont basculé, ont franchi le pas. On a envie de savoir. vraiment. On va commencer par vous écouter, vous, Estelle. Est-ce que le roman que nous avons entre les mains sur cette table aujourd'hui, Après la brume, est le fruit de votre travail au master de création littéraire ?
Oui, complètement. Avec ce master, on arrive avec un projet qu'on est censé avoir terminé après les 2 ans de master. On travaille dessus pendant les 2 années et ça évolue beaucoup. Et moi, c'est le projet avec lequel je suis arrivée dans le master et que j'ai pu terminer à la fin des 2 ans de travail.
Alors, pour le détailler un petit peu, parce que peut-être que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas beaucoup, qui s'est un peu développé en France quand même depuis une grosse dizaine d'années, qui est beaucoup plus courant aux États-Unis, c'est creative writing, ce qu'on trouve dans les universités américaines notamment. C'est quelque chose qui arrive maintenant en France. On a souvent des auteurs qui sont passés par le master de création de Paris 8 à Saint-Denis. Celui du Havre s'est ouvert un peu dans la foulée. Donc ces 2 années ensemble, vous êtes une douzaine ou une vingtaine, ça dépend peut-être des formations.
Oui, on est 15 par promo, une quinzaine.
Une quinzaine. Et donc pendant 2 ans, il y a des séances collectives où vous lisez les travaux des uns des autres pour vous faire des retours et vous êtes guidés chacun par un professeur. Est-ce que c'est ce fonctionnement-là ?
Oui, en fait, chaque personne est suivie par un référent qui est autrice ou auteur. Et après, il y a des ateliers au sein du master où on va se lire nos textes, où on va échanger et possiblement se faire des retours. Et ça peut évoluer de cette manière-là.
Alors, comment est-ce que votre texte à vous a évolué ? Est-ce qu'il est très différent de celui avec lequel vous êtes arrivé 2 ans auparavant au sein du master ? Et quels ont été, de quelle nature ont été les retours de vos camarades écrivains ou de vos professeurs ?
J'ai l'impression que le travail, il a surtout porté sur la narration de mon côté, comme c'est un roman choral avec 7 personnages et qu'il y avait une intrigue à mener. En tout cas, j'avais l'idée de quelque chose qui avance vers une forme de résolution. Et donc, je crois que le travail, ça a porté surtout sur l'agencement des différentes parties et comment trouver une forme de logique ou quelque chose qui, en tout cas, qui progresse dans l'histoire. Et après, je crois que c'est surtout le dialogue avec mes camarades du master, les professeurs, les choses se sont faites petit à petit, quoi.
Et comment est-ce que, du coup, une fois que le manuscrit est poussé jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'au bout des 2 années, le master s'arrête. Comment est-ce que ce manuscrit est devenu un roman aux éditions d'Alva ? Qui a fait le lien, la jonction ? Est-ce que vous avez rencontré plusieurs éditeurs ?
J'ai eu la chance d'être suivie. Ma référente pendant ce master qui me suivait, c'était l'autrice Colombe Bonsen, qui, elle, connaissait les éditions d'Alva et a pu faire le lien en me suggérant que ça pouvait, en tout cas qu'il y avait dans les thématiques que j'utilisais, qu'il y avait des thématiques qui pouvaient vraiment correspondre, le rapport à la nature, les liens entre les différents personnages de femmes. En tout cas, elle m'a suggéré de l'envoyer à Dalva et ensuite ça a été accepté.
Et accepté chez Dalva. Et là, du coup, puisqu'il y a finalement déjà eu un travail éditorial, parce que le fait d'avoir des retours de vos collègues, de vos professeurs, c'est déjà un travail éditorial, c'est de reprendre le texte, de peut-être alléger certains passages un peu lourds, au contraire densifier les personnages, reprendre des dialogues. Tout ça, ça a déjà été fait. Est-ce qu'une fois que le manuscrit arrive chez Dalva, il y a un nouveau travail éditorial qui s'enclenche, ou là, le texte finalement avait atteint à peu près sa forme aboutie ?
Non, il y a eu encore un travail de réécriture dans la structure surtout. Pareil, plutôt du réagencement, réfléchir justement à la forme globale. Peut-être que c'était plus de l'ordre, le master, j'ai peut-être, si on prend l'exemple d'une maison, j'ai travaillé le ciment, les chaque petite brique une par une. Et là, c'était vraiment, agencer les murs entre eux, enfin, c'était quelque chose de plus global, j'ai l'impression, pour qu'il y ait quelque chose qui se tienne vraiment debout. Voilà.
Et le voilà sur les tables des librairies, c'est une émotion particulière, j'imagine, vous arrivez à réaliser un petit peu ?
Oui, petit à petit, ça fait très plaisir.
Célestin, de votre côté, on l'a dit, vous avez commencé par écrire de la poésie. Comment est-ce que ce glissement vers la narration de fiction s'est opéré ? J'ai pu lire ou entendre que vous aviez déjà travaillé des voix, peut-être un peu disparates, et qu'elles ont fini par faire un tout dans ce roman. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce glissement de l'écriture poétique à la lecture de fiction ?
C'est-à-dire que quand j'ai terminé l'écriture de Cavalerus, donc le dernier poème que j'ai écrit et qui a été publié en tout cas, je ne parvenais plus à me remettre dans l'écriture de la poésie. La fiction a toujours été quelque chose que j'ai travaillé précédemment, mais il y a longtemps. J'ai arrêté l'écriture de fiction pour me consacrer à la poésie parce que je considérais qu'il fallait que j'apprenne à écrire et que pour apprendre à écrire, il fallait passer par la poésie, pour savoir notamment ce dont il est question quand on utilise des mots et le langage. Donc je me suis concentré sur la poésie pendant au moins 10 ans. Et après l'écriture de Cavalerus, j'ai pu trouver... j'arrivais à faire des recettes, quelque part. J'arrivais à faire ce que je savais faire, mais je n'arrivais pas à trouver de liberté ou de nouvelles libertés dans l'écriture de la poésie. Et c'est la raison pour laquelle je me suis relancé dans la fiction, parce que c'était un territoire dans lequel je me sentais plus libre. Peut-être parce que je l'avais abandonné longtemps et que du coup, c'était une redécouverte aussi. Et voilà, donc après avoir écrit Cavalerus, donc en 2020, je me suis relancé dans la fiction et j'en ai écrit, voilà, c'est comme ça que c'est revenu en tout cas.
Est-ce que vous dites que vous avez appris la poésie en faisant confiance aux poètes, aux écrivains que vous lisiez, notamment Roberto Bolaño, que vous êtes formé en écrivant à travers vos lectures. Est-ce que pour la fiction, il y a des auteurs, notamment pour l'écriture de Mythologie du 12, est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont accompagné?
Bolaño, par exemple, m'accompagne beaucoup plus en fiction qu'en poésie. Je trouve qu'il est, en ce qui me concerne, beaucoup plus intéressant dans sa fiction que dans sa poésie. Évidemment qu'il y a plein d'auteurs en fiction. Selon moi, on apprend à écrire en lisant avant tout. Mais en lisant différemment, c'est pas une lecture page-turner, mais on arrive à comprendre ou parfois déceler des tiens, il a fait comme ça pour amener, pour passer de cette scène à une autre, on arrive à voir avec quelle ficelle il a réussi à construire son récit quelque part quand on lit un auteur. Et donc c'est en lisant et en écrivant de la poésie, disons que je considère avoir appris le travail d'écriture. Des auteurs qui m'influencent en fiction, il y en a beaucoup. Durant l'écriture de Mythologie du 12, je ne sais pas. Je lis à peu près tout le temps, donc je ne sais pas. Il n'y en a pas un particulièrement qui m'a influencé ou qui m'a soutenu durant l'écriture du livre. Mais sinon, je ne sais pas, vous voulez que je cite des auteurs ou...
c'est vous qui décidez. Moi, je pose la question, la réponse vous appartient.
Mais
j'entends que vous continuez à lire parce que certains auteurs n'arrivent plus à lire pendant qu'ils écrivent. Parfois, ils arrêtent de lire les quelques semaines ou mois où ils écrivent. Vous, en tout cas, ça continue de coexister.
Quand j'écris, en tout cas, j'essaye de lire plus de la philo et de la poésie. Malheureusement, depuis quelques mois, je lis moins de poésie qu'avant. Mais j'ai toujours un livre entre les mains, de toute façon. Ouais.
Est-ce que vous avez le sentiment de découvrir quelque chose ou de redécouvrir quelque chose à la fiction ou de perdre quelque chose par rapport à l'écriture de poésie ?
Je fais pas de grande différence entre la fiction et la poésie parce que pour moi, il est avant tout question d'abord d'écriture. Et quand je dis écriture, je pourrais dire il est avant tout question de musique, par exemple, mais c'est vraiment l'acte d'écrire et qui m'importe. Et c'est pour ça que je cloisonne pas poésie d'un côté et fiction de l'autre. Et d'ailleurs, j'essaye, quand j'écris de la fiction, j'ai le bagage de la poésie derrière qui influence, en tout cas, ou qui pousse ou qui guide l'écriture de fiction, à laquelle je suis obligé de suivre une narration pour avoir une fiction construite. Mais sinon, c'est d'abord l'écriture en elle-même qui compte pour moi.
C'est d'abord le rythme des phrases et les mots qui s'agencent. Il s'agit donc de Mythologie du 12, aux éditions du Sous-sol. C'est un roman dans lequel on rencontre un jeune homme qui s'appelle Théo. Il est sur un parking de supermarché. Il attend Max, il vient d'avoir 18 ans et ils ont prévu de se retrouver avec Max pour plutôt fumer et plutôt boire des bières. Et puis un troisième personnage, c'est le docteur Rombouts, c'est comme ça qu'on prononce, qui lui va apercevoir depuis sa voiture ces deux jeunes gens et puis rentrer chez lui dans sa grande maison blanche au milieu de la campagne. Il a eu une longue journée, il est dans une situation un peu pénible, il s'est séparé de sa femme et les tensions entre eux sont encore vives. Et voilà, ces personnages-là sont chacun dans leurs espaces. Et puis le roman se construit et monte en tension pour qu'à un moment donné, les trajectoires se percutent et se rejoignent. J'aimerais vous entendre sur ce choix de deux générations de personnages, le docteur Rombout d'un côté, qui est plutôt en fin de carrière, et puis ces deux jeunes gens de 18 ans. Avant de vous entendre sur ce sujet, je voudrais que vous nous lisiez les pages 49 et 50 qui nous donnent à entendre le regard du docteur Rombout sur la jeunesse.
Qui commence au crochet, j'imagine.
Et vous pouvez vous arrêter au crochet suivant.
Okay.
C'est très bien organisé tout ça.
À cet instant et pour la première fois de sa vie, Rombout pensa à l'écart ou à la différence entre sa génération et celle de ses enfants. Il n'était pas certain qu'elle était mieux, pas seulement différente, non, mais pire. Et d'autant plus qu'il ne parvenait pas à la comprendre. Il n'arrivait pas à comprendre leurs préoccupations ni leurs comportements, leur narcissisme ou leur médiocrité, car le docteur pensait que ses enfants s'abrutissaient à force d'écrans, de téléphones et de consoles. Pour buter des zombies, aucun problème. Mais à la première chasse, ça se débine, se dit Rombout, à passer leur journée sur les réseaux, des heures entières, ce qui, d'une certaine façon, tétanisait et fascinait leur père, qui ne comprenait pas ce qu'il pouvait bien faire pendant autant de temps, les yeux braqués sur l'écran de leur téléphone, s'examinant sous tous les angles, regardant des vidéos à tort et à travers, alors qu'ils auraient aussi bien pu, je ne sais pas, lire quelque chose, car selon le docteur, c'était par les bouquins, ou du moins l'instruction, précisément, qu'il pourrait s'en sortir. Lui-même n'avait pas beaucoup lu, c'est vrai. Il s'était arrêté à deux ou trois classiques. Néanmoins, c'était sans conteste par les livres, par sa scolarité latine, que le docteur s'était forgé un esprit critique, une tête bien faite, érigeant le courage et l'ambition et la rigueur en vertu cardinale. Mais eux, ses fils et cette génération, avaient accès au monde entier et au savoir comme aucune autre auparavant. Comme aucune autre, oui. Et pourtant, ils n'en faisaient rien. Non, cette génération était exagérément gâtée, dans tous les sens du terme, se dit Rombout.
Merci. Je crois que c'était l'une de vos tensions de départ, cette l'exploration de, vous avez écrit écart type, mais cette exploration de l'écart entre ces deux générations.
Oui, c'était une des idées de base. Rombout, je l'avais déjà quelque part dans un tiroir, c'était un personnage qui quelque part me fascinait déjà, dont j'avais essayé de cerner les contours et de connaître avant. Chaque tentative arrivait dans une impasse, ou en tout cas j'arrivais pas à le développer comme je voulais le développer. Et puis un jour est venu Théo, et cette première scène sur le parking, et à ce moment-là, Rombout l'a aussitôt rejoint, en tout cas leurs trajectoires se sont rejointes très vite, c'est très facilement. Parce que je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait une incompréhension énorme entre une génération. Bon, moi, je suis un peu bâtard là-dedans, je suis entre les deux, mais il y a une incompréhension énorme entre une génération qui pourrait être celle finalement du père de Théo. Enfin, ils ont une génération d'écart, donc entre une certaine génération et c'est entre les gens qui ont 18 ans aujourd'hui et les gens qui en ont 50, 55, 60 aujourd'hui aussi. Et donc j'ai voulu effectivement mettre en tension ces deux générations et voir, pas voir pourquoi ils ne se comprennent pas, parce que je pense que c'est relativement évident, mais en tout cas, les faire se côtoyer le temps d'une histoire.
Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est qu'elle commence comme une sorte de regard en surplomb de ce docteur sur la jeunesse, mais il y a immédiatement un petit tour sur lui-même où en fait... Il se regarde aussi un peu lui-même en avouant que, bon, OK, il pourrait lire, c'est jeune. Bon, lui, il a lu que trois livres, mais il y a quand même tout de suite un petit mouvement intérieur qui le destitue tout de suite de son petit piédestal, celui sur lequel il essaye de se placer.
Oui, parce que lui, de toute façon, il a raison. Et qu'effectivement, il parle de lire des bouquins, mais il en a lu que trois. Et pour lui, c'est pas... Finalement, c'est pas ça qui compte. C'est en fait, il a raison et puis c'est tout. C'est ça qui compte. C'est le fait qu'il soit dans la bonne morale, dans la bonne projection même vis-à-vis de l'avenir et qu'il soit dans son bon droit et dans ses possessions qui le rassurent, mais autant mentale, morale, philosophique que sociale et économique et tout ça.
Et de sa maison et de sa voiture et de tout ce qui va tout ce qui va se mettre en mouvement plus tard. Il vient d'où ce nom, le docteur Rambout? Est-ce que c'est un nom qui est fréquent en Belgique? Parce que moi, je ne le connais pas et ce n'est pas quelque chose qu'on croise en France. Donc, j'aime bien les petits exotismes belges.
Il y a la marque d'un café qui s'appelle Café Rambout. Okay. Mais ce n'était pas pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Pour tout vous dire, c'était un clin d'œil à Hugo Claus, dont un des personnages, Hugo Claus, qui est un écrivain flamand. Donc c'est un nom qui est répandu en Belgique néerlandophone, ou plus ou moins répandu. Et il y a un personnage dans La Rumeur de Hugo Claus, qui s'appelle Rambout. Voilà, c'était un clin d'œil, c'est pour relancer le labyrinthe.
Et moi, je vois un nom qui tourne un peu en rond quand même, qui est un peu en boucle sur lui-même. Estelle Roquitelli, de votre côté, Après la brume se passe sur une petite île au large de la Bretagne. On y entend des voix de femmes qui se succèdent. Leurs prénoms donnent leur titre au chapitre. Il y a par exemple Tina, qui est la maman de Raph, 6 ans. Cette petite fille disparaît lors d'une sortie scolaire. Elle disparaît dans la brume. Les femmes se rassemblent, organisent une battue pour tenter de retrouver cette petite fille. Elles se livrent les unes après les autres. Vous allez rencontrer Maud, l'institutrice, Alma, Marielle, elles sont 7. Et de chapitre en chapitre, on comprend leurs liens, leurs histoires, leur passé, par petites bribes. Est-ce que vous avez conçu chaque chapitre, donc les prénoms reviennent, pas forcément dans un ordre régulier, est-ce que vous avez conçu chaque chapitre comme une île pour chacune d'elles ?
Je pense que c'était pas conscient, mais clairement, j'ai l'impression que chaque personnage de cette histoire se rapporte à l'île où elle vit, et que donc elles peuvent vraiment fonctionner chacune, elles peuvent chacune se suffire à elles-mêmes, et en même temps, elles sont dans une circulation entre elles qui fait que les croisements entre les personnages les transforment. Et donc, ce serait peut-être plutôt un archipel, parce que les îles sont liées entre elles, en tout cas très fortement.
Est-ce qu'il y a des voix qui ont été plus lointaines de vous ? Est-ce que vous êtes attachée davantage à certaines femmes qu'à d'autres ? Et de laquelle est-ce que vous vous sentez le plus proche ?
C'est une question difficile. J'ai l'impression que, enfin, en tout cas, il y en a une que j'ai écrite en premier. Sans savoir qu'il y en aurait 6 autres. C'est Alma qui vient sur l'île, qui s'intéresse aux oiseaux et qui vient sur l'île chaque automne pendant la migration des oiseaux parce que juste elle a besoin d'être là pour les voir passer. Donc elle, je m'identifie peut-être plus à ce personnage-là qui est aussi très observatrice, très en dehors de l'histoire. Mais sinon, je crois qu'il n'y en a pas une plus importante que les autres et peut-être que les différence se situe plus dans ce que je connaissais d'elle au départ et ce que j'ai pu apprendre en écrivant. En fait, enfin, il y en avait que je connaissais peut-être plus précisément avant de les écrire et d'autres que j'ai appris à connaître en écrivant. Petit à petit, des choses se sont un petit peu éclaircies sur leur passé ou les relations entre elles. Ça s'est ajouté.
Il est très beau ce mot d'éclaircie parce que moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en lisant. Après la brume, j'avais vraiment le sentiment qu'à chaque chapitre, le brouillard se dissipait un peu sur chacune d'elles. C'est-à-dire qu'on a des éléments assez. Parfois, il y a des phrases un peu mystérieuses qui restent en suspens, et puis la fois d'après, quand on les retrouve, les choses se précisent. Est-ce que c'était un motif présent, ça, pour vous ? C'est-à-dire que c'est pas seulement le titre et l'élément qui va faire que Raph disparaît, mais aussi quelque chose qui aurait pu guider votre écriture dans la façon de la faire progresser. Cette dissipation ? Dissipement ? J'en sais rien. Dissipage, c'est ce dissipage de la brume.
Oui, je crois que ça m'intéresse. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait des motifs que j'avais envie de distiller un peu dans le récit et que certains éléments ne soient pas forcément visibles tout de suite ou alors... En fait, dans certaines parties, il y a des détails ou des choses qui apparaissent, mais qui ne sont pas forcément... Ben, la lumière, justement, n'est pas mise dessus directement, mais peut-être 4 ou 5 chapitres plus loin, on va les retrouver. On va peut-être se dire, OK, en fait, ce moment-là... Enfin, on va plus en apprendre sur tel élément. Je crois que ça m'intéressait de faire voyager des motifs. Et aussi, j'ai l'impression que chaque personnage a des perceptions différentes de certaines scènes ou de certains objets ou certains pans de l'île. Et donc oui, peut-être que c'est un peu un puzzle qui s'éclaircit à différents endroits selon les chapitres.
Oui, et c'est comme des petites... Des points de vue, des petites caméras en fait, qui tournent autour d'un même sujet, d'un même objet, et qui éclairent effectivement différentes parties de cette réalité qu'elles sont en train de vivre ou de partager. Peut-être qu'on peut vous entendre lire ce passage-là de Tina, pour que vous rencontriez l'une d'elles.
Je n'ai jamais eu aussi froid. T'as pas froid, toi ? C'est la phrase de Pierre, de Greg, qu'ils répètent tout le temps, la main sur mon épaule, les yeux prêts à rire parce qu'ils savent que dans 5 minutes, je vais demander un pull, une écharpe, le bonnet qu'ils poseront sur ma tête sans me demander de compte. Tina l'oignon, dit Marielle. Des couches et des couches, les pulls les uns sur les autres, et toujours la sensation d'être dehors, sous les poutres de l'atelier, à la lumière du poêle, abrité sous le caouet. Le frisson qui s'invite, qui passe sous la porte même en plein été. La bataille quotidienne pour trouver la chaleur, c'est pour ça que je suis venue m'installer ici. J'attendais la rudesse, je la voulais. Les premiers jours, je promenais mon ventre dans l'hiver, les mains posées dessus, et je pensais à elle, qui n'avait pas de prénom. Je l'appelais la petite fille du froid. Aujourd'hui, c'est différent. Au moment où Maud est arrivée, s'est avancée, ses yeux cherchant une issue dans le sol, j'ai compris que ça n'allait pas. Elle a parlé de Raph, dit quelque chose que je n'ai pas compris. Je l'ai fait répéter 2 fois. Je me suis mise à grelotter. Dans la voiture, chauffage à fond, buée sur les vitres, la sueur traversait ma polaire. Je me sentais sale, fébrile. Il a fallu se garer près des ruines, sortir et marcher, pilote automatique. Je ne sais pas ce qui me fait avancer, mais je dois piétiner, encore, tout retourner du regard.
Merci beaucoup, Yacé. Il y a cette phrase, elle a parlé de Raph, dit quelque chose que je n'ai pas compris, je l'ai fait répéter 2 fois et je me suis mise à grelotter. Le personnage entend quelque chose, le fait répéter, mais nous n'y avons pas accès en tant que lecteur. Et il y a beaucoup d'éléments comme ça qui vont se dévoiler petit à petit. En vous écoutant, parce qu'on pourrait lire et relire des livres indéfiniment, mais en vous écoutant, j'entends différemment maintenant, au moment où Maud est arrivée, s'est avancée, ses yeux cherchant une issue dans le sol. Je voulais le juste comme ça, hein. Mais j'entends maintenant cette phrase-là, l'issue dans le sol, différemment maintenant que je suis allée jusqu'au bout du roman. Je vous ai donné un petit indice, hein. Pas très gros. Les personnages masculins sont présents. J'ai parlé des voix de femmes, elles sont absolument au premier plan du roman, mais il y a quelques hommes, Greg, Marek, qui sont là, et puis il y a Pierre Svenberg, qui est le papa de Raph. Alors d'abord, j'ai remarqué que tous les prénoms des hommes étaient très courts, il n'y avait que des E dedans, à part le A de Marek. Est-ce que c'est un pur hasard, ou est-ce que vous avez voulu avoir des prénoms en E ?
Non, je crois que c'est un pur hasard, mais c'était des prénoms qui m'évoquaient des choses, peut-être d'autres îles, ou d'autres... Enfin, je sais que Sven, je pensais... à l'Islande, en fait, en utilisant ce prénom-là, qui est plutôt nordique. Mmh. Et j'avais l'impression que, du coup, ça connectait à d'autres régions. Marek, c'est polonais. Donc Mais la place du E, non, c'était pas du tout...
C'était pas voulu. Parce qu'il y a Pierre aussi, La Roche, enfin Greg, je trouvais que c'était des prénoms qui sonnaient, qui avaient une sonorité qui était intéressante. Et tant qu'on est sur ce point, je vous entendre sur le choix du prénom de Raph. C'est Raphaël, la petite fille qui disparaît, qui a 6 ans. Pourquoi ce prénom-là, qui est répété souvent, qui est crié parfois, qui est répété sans majuscule, qu'est-ce que vous aviez envie d'apporter avec ce prénom-là, raccourci, ce diminutif ?
Je crois que déjà, c'est un prénom qui peut être utilisé pour... c'est Raphaël, qui peut être utilisé pour un garçon ou pour une fille. Et je crois que c'était important pour moi que Raph soit une ou un enfant, en fait, et qu'il n'y ait pas forcément de genre précis dans sa manière d'être décrite, même si je précise vraiment que c'est une petite fille, mais qu'il y a, enfin pour moi il y a quelque chose dans l'enfance qui me plaît, c'est qu'on peut être un peu qui on veut. Enfin pour moi, Raph, ça peut être un petit garçon, une petite fille, un morceau de un petit morceau de rocher, un petit oiseau. Enfin j'ai l'impression qu'elle est un peu multiforme et que c'est un, comme un petit, une petite partie de l'île quoi. Et après je sais pas, je crois que c'était un
ouais, c'est vraiment cette valeur-là de double. Parce que moi, j'entendais Raph rafler, comme si elle avait été enlevée. Et il y a un moment où la maman crie Raph, et vous l'écrivez Raph avec majuscule, puis Raph sans majuscule, comme si ça devenait un son, et comme si ça devenait un aboiement. Moi, j'entendais une mère chienne qui aboie et qui cherche son petit, quoi. Ça devenait vraiment ce prénom devenait un son, un écho, et finissait presque par perdre sa valeur de prénom.
Je crois qu'il y a aussi le fait que quand on prononce beaucoup un mot, on ne sait plus de quoi on parle ou de qui on parle. Oui. Et il y a un peu, enfin, je crois que dans l'idée de perte de majuscule, c'était comme si, en fait, elle a perdu sa fille, mais elle ne sait plus exactement qui elle appelle, de qui elle parle, parce qu'il y a cette disparition et que ça remet peut-être un peu toute sa perception de cet enfant.
Et de la réalité. Oui, c'est comme voilà. Si elle perdait un peu pied aussi. Hein. Il y a une sorte de vertige et ce prénom qui devient une enveloppe creuse puisqu'il n'y a plus personne dedans.
C'est ça.
Ça fonctionne très bien en tout cas, tous ces motifs-là que vous mettez en place. Célestin, votre roman est construit en deux parties. Un grand 1 et un grand 2 avec à chaque fois une page noire pour marquer la rupture. Le premier est vraiment une succession de très courts chapitres qui sont parfois presque une seule phrase. Les points sont très rares. Ce sont de longues phrases portées par des points-virgules, des virgules, d'autres points de ponctuation, mais pas de points. Et puis à partir du grand 2, on cesse ces courts chapitres pour n'en avoir qu'un seul long. Et là, il y a un peu plus de place pour le point. Tout ça, c'est une question de rythme, évidemment. Comment est-ce que vous aviez envie de travailler cette ponctuation et qu'est-ce qu'elle nous dit de plus de votre histoire, de vos personnages ?
Et donc la première partie, c'est une sorte de mise en scène des... C'est une présentation des personnages et de leur vie à un instant T. Donc il y a Max, enfin, Théo et Max d'un côté qui sont sur ce parking et puis à un moment qui prennent la voiture et qui se mettent un peu aérés. Et de l'autre côté, il y a Romboots qui rentre chez lui, donc le docteur qui rentre chez lui. Et c'est je présentais un peu les deux, voire trois personnages dans leurs souvenirs, rêves, angoisses, peurs. Etc., sur cette première partie. Et donc, la parole est donnée à chacun des personnages à tour de rôle. Dans la deuxième partie, j'ai voulu que... Dans la première partie, ils partagent un territoire qui est relativement vaste, qui est un parking, une route, un paysage qui se situe entre la ville et la campagne, dans ces zones industrielles ou artisanales, telles qu'on les appelle en France, mais avec donc une enseigne de McDonald's, Brico, Intersport, Carrefour, etc., etc. Donc, ils partagent ce territoire-là. Et puis, dans la deuxième partie, j'avais envie que l'éthos... deviennent de plus en plus denses, se resserrent en fait, et que la toile d'araignée apparaisse, cette toile dans laquelle, au milieu de laquelle ils vont se mettre à danser et à se retrouver englués, et donc les voix passent de l'une à l'autre, comme ça, sans qu'il y ait de transition claire, telle que c'était dans la première partie. La première partie, c'est vraiment chacun à tour de rôle, dans la deuxième, c'est les voix... vont de l'une à l'autre de manière peut-être plus fluide ou en tout cas de manière plus rapprochée parce qu'ils sont dans c'est une espèce de danse dans une toile d'araignée quoi.
C'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Moi, je faisais le geste. Alors, c'est un passage qui est... il est difficile à lire dans votre livre à l'oral, dans la mesure où ces phrases sont tellement longues qu'on a du mal à couper pour en extraire une partie. Mais pour illustrer ce que vous êtes en train de dire, moi, je faisais le signe de la sorte de spirale en fait, qui se met en mouvement dans cette deuxième partie. Et effectivement, vous allez dans une même page passer de Romboots à Max, à Théo, revenir à Max, revenir à Romboots. Et on a une valse des trois personnages dans une même continuité. Et ça, il y a une sorte de vertige qui se crée, effectivement, comme si la spirale était enclenchée. On va voir jusqu'où elle va, et on ne le dira évidemment pas sur cette scène, mais en tout cas, il y a une dynamique qui les emporte tous les trois. Je crois que c'est un texte que vous avez écrit vous-même au fin fond de la forêt.
Oui, on pouvait difficilement être plus au fond de la forêt à ce moment-là. Je devais garer ma voiture dans un hameau qui était à 3/4 d'heure de marche de la maison, donc c'était une aventure pour sortir les poubelles et faire les courses, en gros. Et je sais pas pour vous attendez une réponse.
Non. Voilà. C'était. Je vous me confirmais que vous l'avez écrit au fin fond de la forêt.
Oui, tout à fait.
Et que, du coup, il y a quand même une recherche d'adéquation entre l'univers que vous décrivez et l'ambiance dans laquelle ça se déroule et vos conditions d'écriture. Donc voilà, c'était juste confirmer que j'avais la bonne information.
C'était bien ça.
C'était bien voilà. Ça. On a parlé de cette construction en deux parties. Pour vous, Estelle, il y a premier jour, deuxième jour et nuit. Ça fait 24 heures de la vie de ces femmes. Enfin, un peu plus 36, mais si c'est 36, du coup, ça ne marche pas. Donc on va dire que c'est 24, pour avoir la référence à Zweig. Un temps qui est très resserré. Vous avez tous les deux des contraintes d'unité de temps et de lieu qui sont très courts. On va revenir à la vôtre. Mais là, il y avait vraiment un temps très resserré. Là aussi, est-ce que cette temporalité, elle faisait partie des éléments de départ, ou est-ce que c'est l'univers en se resserrant qui vous a invité à resserrer votre temporalité?
Oui, je crois que c'est ça. Au départ, ça devait durer 3 mois. Donc ah oui. Ça s'est très resserré. Mais je me suis rendue à l'évidence que c'était très compliqué qu'une petite fille survive, ou en tout cas ait une existence pendant 3 mois toute seule quelque part sur cette île. Ça s'est transformé en 3 jours, puis 2 jours et une nuit. Et oui, c'était aussi le enfin, je pense que l'île a tout s'est resserré, même en écrivant. J'ai l'impression que mon écriture s'est en fait rapprochée du cœur de l'île. Enfin, à la fin, je me rendais compte que j'écrivais plus que sur une toute petite parcelle de l'île, parce que c'était là que se situait vraiment le cœur de l'histoire. Quoi. Mm-hmm.
Et notamment autour de cette auberge, il y a beaucoup de scènes dans l'auberge où les personnages se retrouvent.
Oui, il y a l'auberge, le phare et la plage. J'ai l'impression que c'est un peu les trois
pôles.
Ouais.
Dans votre roman Célestin de Meus, c'est la soirée du 21 juin. Un cadre très précis, l'ambiance est assez moite, assez orageuse. Pourquoi cette date-là précise? C'est le jour le plus long? Est-ce que ça vous permet d'ajouter à la tension narrative? Est-ce que c'est un élément assez évident quand on veut retarder un peu l'arrivée de la nuit ou peut-être ça va basculer?
Quand le personnage de Théo est arrivé, donc ce jeune type de 18 ans, qui vient tout juste d'avoir 18 ans, j'avais envie de parler de l'ennui aussi, et j'ai trouvé que le 21 juin, quand il fait chaud, ce qui n'arrive pas chaque année en Belgique, mais quand il fait chaud, ça peut être d'un ennui et d'une mélancolie à se damner, et avec cet asphalte qui fond et ce jour interminable, et on aimerait que ce soit la nuit, et en fait la nuit ne vient pas, et quand elle vient c'est pour le pire, et donc j'avais envie de ce cadre là qui correspondait bien à ce dont j'avais envie de parler à travers le regard d'un gamin de 18 ans qui est Théo.
Vous avez commencé à avoir un peu peur là ou pas? Parce que c'est le but de la rencontre. Et que vous repartiez un peu stressé. En vous écoutant, je me disais, mais ce Théo, il échappe un peu au cliché, on a du mal à le cerner. Je voudrais qu'on parle de sa passion pour la mythologie, mais juste avant, on est le 21 juin, et je prenais des notes en me disant, mais ce jeune homme-là, il réfléchit à l'idée de reprendre, de poursuivre des études d'histoire à la rentrée. Je me disais, mais c'est chouette son parcours sup quand même, le 21 juin. On peut commencer à réfléchir à faire des études d'histoire à la rentrée. Voilà. Nos élèves chez nous, là, en première, il faut qu'ils se décident, mais eux, là, tranquille, les Belges.
Mais c'est, oui, tranquille, les Belges, mais c'est parce que ça ne se passe pas de la même manière en Belgique. C'est,
j'ai bien compris.
C'est donc il y a cette période de. Donc, l'équivalent du bac, on va dire, Théo vient d'avoir l'équivalent du bac, ça se termine vers les examens se terminent vers le 20 juin ou le 19 juin, et il y a toute cette semaine blanche durant laquelle on attend les résultats de ces examens, et pendant laquelle on n'a pas cours, on ne doit pas aller à l'école, et généralement c'est une semaine où, quand on a 18 ans, on en profite pour boire des bières et attendre dans l'angoisse et la peur et la joie.
Alors il a une passion et c'est ce qui vous permet de déconstruire aussi un peu le regard tout plein de clichés que cherche à projeter sur eux Rombouts. Il a une passion pour la mythologie, mais c'est quand même une sorte de mythologie à la mode Théo, une sorte de mythéologie. Je vais vous inviter à lire ces deux pages qui nous donnent accès à sa vision de la mythologie.
Les deux pages.
Pardon, oui, non, une petite instant technique. Oui, c'est ça.
Okay. Et jusqu'à derrière. Ah oui. Okay. Ouais. Théo se rappelait sa prime passion pour la mythologie, et donc pour l'histoire, puisque après tout, c'en étaient les prémices. Imaginaires, certes, mais tout de même. Et à la suite de ça, à la suite de Chaos et de Gaïa, que s'était-il passé, essaya de se rappeler Théo. Uranos, non ? C'était cela, en toute logique. Après la terre enfantée du néant, c'était au tour du ciel d'être enfanté par Gaïa. Donc par la terre. Et tous deux s'étaient accouplés pour créer notamment Chronos, le temps. C'était cela. La mémoire de Théo était intacte. Cette herbe devait y être pour quelque chose. Max avait dû en trouver de la bonne. C'était peut-être ça, ses 5 ou 10 minutes de retard. Sa petite course à faire. Oui, mais après, continua-t-il de se demander. D'ailleurs, n'y avait-il pas quelque chose comme Eros avant ça ? Peut-être bien, il faudrait que je vérifie. Mais il ne pensa même pas à sortir son téléphone pour vérifier, ce qui lui aurait certainement rafraîchi la mémoire, du moins concernant cet Eros et les autres dieux intermédiaires qu'il avait peut-être oubliés. Quoi qu'il en soit, du ciel et de la terre était né Chronos, le temps, il en était certain, et les cyclopes, cela aussi il se le rappelait bien. Mais à ce stade, tout devenait confus et vague dans son esprit. Les noms et filiations se mélangeaient. Mais ce qui était sûr, c'était que le commencement du monde avait été baigné de guerres, de nymphes et de violences, de querelles et d'amour, jusqu'à ce que Chronos, en bon que tard, baise quelqu'un d'autre. Oui, mais qui ? Réa ou quelque chose comme ça ? C'était cela, se rappela Théo, sans parvenir à se souvenir d'où sortait cette fameuse Réa, que Chronos s'était mis à baiser, sans doute baiser comme pas possible, se dit Théo, légèrement excité, pendant des heures entières, puisque c'était des dieux, et même les premiers dieux, donc il devait baiser des heures entières comme si c'était la fin du monde, mais non, c'en était le début. Quoi qu'il en soit, de leurs étreintes étaient nés plusieurs enfants, seulement s'il se rappelait bien, Chronos était un grand malade. Or, sa mère, Gaïa, lui avait dit qu'il se ferait tuer ou détrôner par un de ses enfants, ce qui, évidemment, embêtait bien Chronos, lui qui aimait baiser comme pas possible et forcément mettait Réa enceinte. Alors, pour pouvoir continuer de baiser sans se faire détrôner, Chronos mangeait tous ses enfants, jusqu'à ce que sa meuf, autrement dit Réa, qui savait bien ce que leurs enfants devenaient, ou plutôt où ils finissaient, cache le dernier, le petit Zeus, qui allait se venger. Plus tard, en filant à son père, Chronos, une sorte de vomitif ou laxatif, s'insurgeant ainsi contre le temps, contre son père et le vieux monde, le vieux pouvoir qu'il incarnait, se rappela Théo, comme s'il avait lu cette histoire la veille. Donc oui, va pour l'histoire, se dit Théo, qui venait de prendre immensément son pied à se replonger, complètement défoncé, dans ses mythologies.
Le mot de... Voilà, le mot défoncé vous explique un peu les pages qu'on vient d'entendre. Pourquoi vous aviez envie que ce personnage-là de Théo soit absorbé, passionné par la mythologie ?
La raison est assez simple, et du coup on revient à la question précédente, donc, qui n'avait pas de réponse. Donc, je vivais à l'époque dans le fin fond de la forêt, sans réseau téléphone ni internet, et j'avais les œuvres complètes de Jean-Pierre Vernant. œuvre, religion, rationalité et politique. Et donc j'avais énormément de temps et je me suis mis à lire ces histoires de la mythologie grecque. Et je me suis pris une petite passion pour ça et j'ai incorporé en fait ces récits-là dans le personnage de Théo.
C'est tout simple, du coup.
Voilà, c'est tout simple.
C'est tout simple. Ça guide, en tout cas, ça tend le roman. C'est un des fils directeurs, parce qu'il y revient régulièrement. Je voudrais revenir à votre roman, Estelle Rocchitelli. J'ai pu apercevoir, parfois, des mots qui faisaient des ponts entre les chapitres. Je voulais savoir si c'était un peu le hasard de leur agencement, ou si vous aviez travaillé une sorte de ronde entre, non seulement entre les femmes, mais entre différents chapitres. Parfois, à la fin d'un chapitre, on peut trouver le mot « tente », et la tente de camping, et on le trouve assez tôt dans le chapitre suivant. Le mot « plage » aussi, le mot « sable », est-ce que ce sont des petits hasards, ou est-ce que vous avez essayé de placer certains mots pour créer des ponts et renforcer votre archipel ?
Non, pour le coup, ce n'est pas le hasard. Enfin, je crois que je voulais vraiment créer des sortes de liens entre les différentes perceptions de ces femmes. Et donc, souvent, l'une d'elles aperçoit une autre. Enfin, par exemple, l'histoire de la tante, c'est l'une d'elles qui va regarder par la fenêtre et voir... une tente plantée quelque part au bout de la lande, et ensuite on va voir...
du côté de la tente.
Voilà, c'est ça. Et je crois que ouais, ça m'intéressait de... ouais, d'explorer différents points de vue sur une même chose et dans un lieu assez, qui est assez fermé, en fait, d'explorer les regards des personnages les unes sur les autres, en fait...
Oui, ça fonctionne très bien, parce que du coup, on a l'impression de regarder par la fenêtre, et puis quelques lignes plus loin, on est là où on regardait. Donc on voyage aussi dans vos pages. Un autre point commun entre vos textes qui m'a retenu, c'est cette sensation de lire des tableaux. Dans vos deux ouvrages, il y a une très belle place à la nature, dans toute sa précision. Et je voudrais donc vous lire ces deux courts passages dans « Après la brume » et puis en parler avec vous deux et avec vous, Célestin, ensuite. Le chemin passe près du vieux lavoir. La fillette s'arrête, lâche mon bras, son ciré jaune devant les ruines. Un oiseau s'est posé sur le mur, mangé par la mousse. Passereau à tête noire, écharpe blanche, ventre roux. Le chant est fluet, à peine grinçant, cassette qu'on rembobine. Un tarier pâtre, chuchote Raph en s'approchant du muret. L'oiseau chante toujours. L'enfant s'est arrêté près des restes du bassin. Le tarier se tait et personne ne bouge. L'oiseau sur le mur, la fillette aux yeux noirs, calme et décidée. L'air s'emplit de sa patience. Un peu plus loin. Tous tournent la tête. Pardon. Regarde, maîtresse, dit Edwin. La mer n'est plus là. Tous tournent la tête. Un grand pan de brume arrive de l'océan, s'étend jusqu'au sable, avance lentement. Un chien passe près de l'eau. Le mur blanc se mêle à l'écume, enveloppe les vagues, se propage jusqu'au reste du bateau abandonné sur la plage. Le brouillard entoure l'épave, traverse les murs de bois et de béton gris. Les contours se désagrègent. C'est une masse claire, un écran gris devant les yeux. Serrés contre moi, les enfants observent, étonnamment calmes. Les souffles légers se perdent dans le froissement des cirés. Les uns contre les autres, au bord de la falaise, on regarde la plage disparaître. Est-ce que vous avez eu cette sensation de temps en temps, Estelle, de dessiner des tableaux avec vos mots ?
Je crois que c'est dans ma manière d'écrire, en fait, je pars des images et j'ai, enfin, en tout cas, j'ai des images qui, à la base, ne forment pas un récit, et c'est en les écrivant que je trouve des liens entre les unes et les autres, et donc je pense que j'essaye d'abord de les retranscrire avant de leur donner du sens, et donc oui, effectivement, je pense que c'est plutôt visuel. Ouais.
Est-ce que vous avez écrit avec des paysages sous les yeux ou avec des photos, ou est-ce que l'image vous a accompagné, ou est-ce que c'est de mémoire que vous avez restitué ces lieux-là?
J'ai écrit avec du son dans les oreilles et donc et de la documentation plutôt sonore, et après donc je pense que les images ont été créées soit par des évocations sonores, soit par des souvenirs, et que le tout s'est un petit peu mélangé, donc c'est un peu un mélange. Ouais.
Dans votre texte à vous, Célestin, il y a aussi une très belle place à la nature. Et moi, je rencontre des mots que je n'ai jamais vus, donc ça, j'aime beaucoup. Alors là aussi, c'est toujours difficile de couper à un endroit, mais on peut le prendre là. Pour terminer par celle des chênes et enfin celle des frênes, lesquelles longeaient, je coupe un peu parce que sinon c'est trop long, lesquelles longeaient les berges de l'étang au centre de la clairière, un plan d'eau piriforme de petite taille, une trentaine de mètres de long sur 15 ou 20 de large selon l'endroit, mais où poussaient à partir de la périphérie externe des lèches, des joncs, pour donner quelques mètres plus loin naissance à d'autres joncs, mais aux roseaux et aux massettes aussi, aux rubaniers rameux, aux prêles, à l'iris jaune, ainsi qu'aux populages des marais, d'un vert lustré et gras et aux fleurs jaunes, avant d'arriver au troisième cercle, aux plantes flottantes, lesquelles se trouvaient être des potamos et nénuphars. La renouée amphibie, les lentilles d'eau et quelques algues sur lesquelles zigzaguaient, tourbillonnaient des punaises d'eau et des girins, des notonectes, des libellules, des demoiselles et des ditiques, qui attiraient grenouilles, tanches, carpes et même brochets, qui parcouraient, striaient de bulles et de remous la surface de l'étang, au bord duquel, enfin, en ce 21 juin, tandis que le ciel se vidait des derniers nuages blancs, se reflétant encore sur la surface verte et vaseuse de ce petit étang. Il y a des mots que vous ne connaissiez pas, non? Ah, je ne suis pas toute seule. Est-ce que c'est un vocabulaire que vous maîtrisez parce que vous avez une passion absolue pour les étangs? Ou est-ce que vous êtes allé aussi, vous n'aviez pas que la mythologie grecque dans cette petite cabane, mais un dictionnaire bien précis dans lequel vous avez pioché des mots que vous-même, vous ne connaissez pas?
Pour les secrets de cuisine, c'est la seule incursion d'Internet dans ces... C'est-à-dire que quand je remontais à la surface, je pouvais télécharger un document et redescendre dans la maison ensuite.
À la surface de quoi ?
À la surface de... Si la maison était dans le fond d'une vallée, il n'y avait pas de réseau ni rien.
La surface de la vallée, pas de l'étang.
Oui, non, c'est ça.
D'accord.
Je n'ai pas vécu comme un amphibie.
Très bien.
Et du coup, effectivement, il y a des documents comme ça qui parlent, de, selon certaines régions, d'un marais et de tout ce qu'on peut trouver autour du marais. Et puis, je ne sais pas, c'est des mots qui sont super beaux et que j'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser pour décrire ce... Je voulais un étang déjà à la base, et donc voilà, je voulais décrire cet étang-là.
J'adore lire ces passages à voix haute, là, je l'ai vraiment extrait, mais vous voyez qu'il y en a plusieurs pages, et j'aime ces lectures qui donnent des sensations physiques dans la bouche, en fait, dans l'articulation des mots, enfin, de dire zigzaguer, tourbillonner, les girins, les notonectes, les libellules, les demoiselles, les ditiques. On est vraiment, la bouche fait un exercice pour aller chercher des syllabes qu'elle n'a pas forcément l'habitude d'assembler ou de dire la suite, de les dire à la suite les unes des autres. Donc ça crée une sensation physique qui est assez forte. Vous avez dit c'est la seule incursion d'Internet. Je crois que vous écrivez votre poésie à la main. Mais cette fiction, vous l'avez travaillée à l'ordinateur. Est-ce qu'il y a eu des passages à la main? Parce que moi, quand je lis ça, j'ai l'impression que vous écrivez avec un pinceau.
Les passages à la main, c'est que la nuit, quand j'ai une idée, ou le soir, ou quand j'ai un carnet dans la poche et je note une idée pour, que je vais retranscrire après à l'ordinateur. Mais sinon, non, la fiction, c'est, de manière générale, c'est exclusivement à l'ordinateur et la poésie exclusivement à la main.
Il y a une sensation de lenteur dans vos deux textes, d'éloge de la lenteur dans toute sa noblesse et toute sa préciosité. Il y a cette scène qui, je trouve, pousse le curseur encore plus loin, où un tracteur empêche Rambout de passer. Il le bloque et du coup, Rambout doit se mettre sur le côté, attendre, ça lui donne l'occasion de regarder les champs. Et puis ça dure une page et demie et à la fin, il finit par passer la première. On est vraiment à l'arrêt par certains... à certains moments dans ce texte-là. Est-ce qu'il y avait pour vous ça, cette sorte d'étirement du temps et d'écrire au sein d'une même minute pour aller vraiment creuser le temps dans sa profondeur et pas dans sa vitesse?
C'est-à-dire que quand j'écris des scènes lentes comme ça, j'essaye d'être à l'endroit où se trouve mon personnage, mais corps et âme quelque part. C'est que s'il est dans la voiture, on voit bien tous ces chemins de campagne où il y a un tracteur qui arrive de face, on ne peut pas se croiser à deux, il y en a un qui doit se mettre sur le bas-côté, on espère toujours que ce soit l'autre qui le fasse, mais en fait, on se retrouve sur le bas-côté à attendre nous-mêmes. Et puis là, c'est un tracteur, donc c'est la plus petite qui est obligée de se mettre sur le côté, mais bref. Et on regarde du coup l'étendue des champs qu'il y a autour de nous, et là, les pensées que j'ai prêtées à Rambout, c'était de cette espèce de fascination pour l'ordre et la rigueur, Il pense effectivement, enfin, il trouve ça extraordinaire, toute cette technique et cette rigueur que l'humain réussit à déployer pour assurer sa subsistance. En fait, il est face à des espèces de monocultures gigantesques et il voit les sillons bien tracés, bien droits. Et c'est de penser le traverse, mais du coup, mettre en mots une pensée, ça met plus de temps que la pensée elle-même. Donc ça peut prendre une page et demie pour décrire juste quelque chose qui nous traverse en un claquement de doigts. Mmh. Mais j'essaye vraiment d'être, quand j'écris, dedans.
Dans son espace-temps à lui.
Donc ça peut prendre parfois effectivement une page et demie.
Mais ça donne effectivement des sensations une sensation de vraiment de se poser dans le texte et d'être avec le personnage à l'endroit dans la minute qu'il est en train de vivre. On a parlé du tracteur, des champs, des sillons, ça m'amène aux céréales. Quelle transition incroyable pour un détail absolument incontournable. Estelle Rocchitelli, vos personnages mangent des céréales tout le temps. Il y a des bols de céréales partout. Pas fini, sur les genoux, le paquet de céréales. Qu'est-ce que vous avez avec les céréales ?
Peut-être ça m'aide à écrire, je ne sais pas.
Vous en mangez vous-même ?
Oui, ça m'arrive. Mais j'ai l'impression que c'est facile à... C'est facile à peut-être
c'est facile à cuisiner,
c'est ça ? D'écrire la cuisine aussi, peut-être que là, elles n'ont pas le temps, en fait. Donc, il faut juste qu'elles mangent des céréales pour pouvoir avoir la force de repartir dans les recherches. C'est vrai que je n'ai pas du tout réfléchi à ça.
Vous ne l'aviez pas vu, il y a au moins quatre références dans les céréales. Dans vos deux textes, il y a cette construction vraiment fine où les éléments sont posés les uns après les autres. Vous allez voir que c'est des petites balises. Moi, c'est ce que j'ai vraiment savouré en vous lisant en plus l'un derrière l'autre, d'avoir cette mécanique-là où on sent la précision de l'élément qui est posé. Ça demande une lecture attentive, mais elle est tellement savoureuse qu'on est dans le texte phrase après phrase. Et quand on attrape un indice et qu'on se dit tiens, ça, qu'est-ce que ça instaure, qu'est-ce que ça m'annonce, qu'est-ce qui va se produire, c'est vraiment une mécanique qui est à l'œuvre. Comment est-ce que vous, une fois que le travail est terminé, vous arrivez à vous arrêter ? À quel moment vous vous dites là, ça tient, on n'y touche plus ? Est-ce qu'il y a une sensation que vous pourriez toujours continuer à le retravailler, ou est-ce qu'il y a vraiment un cap où ça s'arrête et le travail est mûr ? C'est moi qui décide, Célestin.
Moi, j'ai arrêté avec le point final.
Ouais. Non, c'est trop court comme réponse. Ne vous en sortez pas comme ça.
Bon.
Il faut que je boive dedans.
J'ai arrêté quand tout le monde était fatigué un peu. Quand les personnages étaient suffisamment exténués que pour pouvoir avoir le droit à une pause, et moi aussi.
je crois que j'ai l'impression de pas avoir arrêté, parce que même j'ai dû le relire quand il était imprimé, et il y a des détails où je me suis dit mince, ça c'est pas au bon endroit. Donc après, je crois qu'il y a un moment où, ouais, c'est peut-être l'épuisement. Et il faut se rendre à l'évidence que c'est terminé, quoi. Enfin, en tout cas, il faut mettre un point final quelque part.
Toute dernière question avant de vous céder la parole. En vous lisant, Célestin, j'ai complètement oublié que vous étiez belge, que je lisais un auteur belge.
Il y a des indices.
Et puis d'un coup, oui. C'est là que j'y viens. D'un coup, paf. Messaoud, le jardinier de Rombouts, lui a coûté déjà 72 000 euros. Voilà. Et les matchs de foot en Belgique, figurez-vous, durent 90 minutes. C'est pas comme en France. Donc moi, j'ai relevé ces deux indices-là. Qu'est-ce qu'elle a de belge, votre écriture, justement ?
Ouais, j'espère rien. Enfin, je veux dire, je suis francophone.
J'espère rien.
Non, mais je veux dire, ma langue maternelle, c'est pas le belge, c'est le français. Alors évidemment, on utilise des mots et des expressions et parfois des tournures de phrases qui sont un peu différentes, mais je me considère plus que... Enfin, avant tout, je suis francophone. Donc,
du coup, il n'y avait pas plus de belgitude dans votre écriture que ça ? Parce que c'est aussi des
Vous n'avez pas vu les autres indices. Et
alors, c'est lesquels ?
Il faudra creuser, il faudra aller faire un séjour en Belgique.
Moi, j'ai déjà travaillé. Donnez-moi des réponses. C'est quoi les autres indices ?
Je ne dis pas.
Ah bon ? Vraiment pas ?
Il y a le mot cook à un endroit.
Cook.
Une cook, c'est un pain au chocolat. Mais on va dire une cook au chocolat pour un pain au chocolat ou une cook au raisin pour un pain au raisin.
Ok. Voilà. Je ne l'ai pas vu.
Il y a pistolet quelque part.
Pistolet, on l'a aussi.
Mais ce n'est pas un flingue, hein.
Ah, Ah, moi, j'ai cru que c'était un flingue.
Non, parce que c'est Théo, quand il est petit, quand il est petit, il va chercher des pistolets avec son père. Donc, c'est, ça peut pas être
un flingue. Moi, je l'ai lu comme un pistolet français.
Ah, ben... Non, pistolet, c'est un petit pain rond que... Un petit pain rond qui surpierre, qu'on mange en Belgique.
Voilà. OK. Ouais. À base de céréales.
À base de blé, de...
Thématique commune.
Voilà encore un point commun, le pistolet aux céréales. Merci pour cette réponse. Est-ce que parmi vous, y a des réactions, des questions? Vous avez envie de revenir sur ce qu'on a dit ou de faire part d'un sentiment de lecture? Peut-être que parmi vous, certains ont déjà abordé les romans dont il a été question. Eh oui, ben ça, je ne voulais pas le dire. Alors, pourquoi mythologie? Je vais la répéter. Pourquoi mythologie du point 12? Vous aimeriez bien savoir. Donc, mythologie, on en a parlé. Du point 12, ben, ça a à voir avec le pistolet, mais pas le pistolet belge. Le pistolet français.
Et international.
Pardon?
Oui. International.
Mais la version française du mot pistolet, dans son acceptation-là. Voilà. Voilà. Plutôt que du côté de l'arme que du côté du pain.
Oui. Voire carabine, mais on n'a pas de pâtisserie qui s'appelle carabine. Donc...
C'est ça. Donc, voilà. Donc, vous n'en dites pas plus, parce que sinon, vous allez savoir comment ça se termine. Donc, j'ai gardé le mystère. D'autres réactions ou questions? Est-ce que certains parmi vous ont lu l'un ou l'autre texte? Oui. Alors, le micro arrive pour qu'on puisse tous vous entendre.
Oui, j'ai lu Après la brume. Et en fait, je trouve le titre hyper important. Parce qu'au début, j'avoue que c'est cette perso, je me mélangeais un peu. J'étais obligée un peu de revenir en arrière pour m'y retrouver. Mais en fait, ça ne me dérangeait pas trop grâce au titre. Je savais qu'on partait sur quelque chose d'un peu indécis. Enfin.
D'un peu flou, d'un peu flottant.
Oui, d'un peu flou. Et petit à petit... C'est intéressant cette écriture du fait que petit à petit, ben, les personnages, on les distingue, on les reconnaît. Voilà, et en fait, ben, l'intrigue ne sera jamais résolue, mais on est préparé un peu frustré. Mais
là, vous nous en dites trop. Donc, l'intrigue n'est pas d'après vous, parce que vous n'avez pas tout lu bien attentivement.
D'après moi.
Mais chacun va faire sa résolution.
Oui, j'ai dû avoir une lecture...
Moi, je l'ai résolu, hein, je vous le dis, je l'ai résolu.
J'ai dû avoir une lecture floue.
Pardon?
J'ai dû avoir une lecture floue.
Non, mais bien sûr que tout est dans la brume et tout est à la fois très précis et très posé. Et effectivement, c'est la magie de la lecture. Chaque lecteur va se faire son chemin en fonction de ce qu'il a envie aussi de lire, de ce qu'il a envie de voir se résoudre ou non. Mais effectivement, c'est toute l'habileté de cette fin qui accueille finalement tout le monde.
J'ai apprécié aussi les phrases courtes.
Là, en termes de style, on est vraiment sur deux registres. Hein. Effectivement, chez Estelle Rocchitelli, c'est vraiment des phases très courtes, des chapitres très rocailleux, comme ça, très ramassés. Et puis avec Célestin, on est dans des longues phrases qui peuvent s'étaler sur plusieurs pages.
Il y a un chapitre sur les cailloux qui m'a emballée. Les cailloux sont extrêmement vivants. Voilà, merci.
Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Alors, attendez, il y a une question au premier rang. Qu'est-ce que vous êtes? Non, je vous en prie, le micro était derrière, mais on vous écoute. Alors, est-ce que vous écoutez, Célestin, est-ce que vous écoutez de la musique en écrivant? Puisqu'effectivement, et quelle musique? Parce qu'en vous écoutant lire, on voyait que le corps était engagé et que le pied battait le rythme.
Pas en écrivant, jamais. Il faut du silence, mais après, j'écoute beaucoup de musique dès que je n'écris pas. Et disons que, pour donner un genre, mais c'est... Pour brosser large, j'écoute surtout du free jazz, du punk et du classique.
Et pas de slam.
Non, ça s'écoute pas vraiment à la...
Oui, mais en tout cas, vous scandez votre lecture. D'autres... Oui,
alors moi c'est pour Célestin aussi une question. Vous avez mis votre point final, Mais est-ce que vous pourriez pas reprendre justement, non plus entre la génération des 40-50-neurs et des jeunes, mais avec les, regardez autour de vous là, les 70, les 60, les 80, et justement pour montrer qu'il peut y avoir un saut de génération qui permet une compréhension entre ces jeunes.
Oui, mais vous avez la sagesse.
Mais voilà, justement.
Mais ils sont tous sur TikTok.
Oui.
On a tous nos portables.
tous sur les réseaux sociaux.
Voilà. Donc il pourrait y avoir des retrouvailles. Et notamment, nous avons accompagné notre petite fille qui est maintenant étudiante en Belgique, à Liège. Donc voilà, ça fait un lien entre la France et puis la Belgique francophone.
Il y a beaucoup de monde à Liège.
Il y a beaucoup de monde à Liège. C'est la même famille, sans doute. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? On s'arrête là ? Alors, je vous propose de finir. Pardon, j'ai encore une lecture à vous faire. Parce que c'est une lecture qui fait un petit lien entre les deux textes. C'est un extrait de Mythologie du 12, mais vous allez voir que les derniers mots font un pont vers Après la brume. Soudain, tout lui parut d'une lâcheté colossale, d'une hypocrisie crasse. Il lui sembla que le monde, dans son apparente complexité infinie, était en vérité d'une simplicité sans nom. « Oui, le monde est fini, » se dit Théo, qui sentit ou crut soudain comprendre que par cette simple pensée, tout son système de valeurs, érigé et inculqué petit à petit depuis l'enfance à travers ses parents, ses cours à l'école et la télé et Internet, tout ce système de valeurs, donc, venait de s'effondrer. L'empathie n'existait pas, la préoccupation de son prochain non plus, et encore moins le prétendu intérêt pour l'autre, pour le voisin, pour l'étranger. Non, en vérité, tout le monde s'en bat royalement les couilles de tout le monde, pensa Théo. Les guerres n'avaient jamais pris fin, la faim et les épidémies et la cupidité et les sécheresses et la banquise qui font et toutes les exactions, plus encore que les choses impossibles à indiquer, étaient des choses, selon Théo, sinon organisées, du moins voulues ou tolérées, voire peut-être encouragées, à condition que les exactions, la guerre, la faim ou la sécheresse ou la fonte de la banquise ou une épidémie rapportent à son instigateur. Voilà ce que pensa Théo. Alors ni la mythologie, ni a fortiori l'histoire, ne lui semblèrent d'aucun secours, car ces choses lui parurent soudain banales, réelles, totalement vaines, sans intérêt, absurdes et dénuées de tout avenir, si paradoxal que cela puisse paraître concernant la mythologie ou bien l'histoire. Pourtant, c'était ainsi. Plus rien n'avait de sens ni d'avenir, et à vrai dire, malgré leur apparence inextricable, toutes les choses, l'histoire, le monde, l'école, les meufs, la guerre, Alice, la faim ou la famille ou les amis ou la mythologie, toutes ces choses-là étaient des îles, littéralement, des îles cernées par des eaux brunes et buboniques, infranchissables, mises en mouvement par rien, sinon par la peur de disparaître. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci.